Est-ce que vous êtes joyeux? Est-ce que vous avez de la joie ce matin ou pas? Non, parce que David, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Voilà, ça c'est ce que David il nous dit. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et puis, il se trouve que depuis que Jésus a offert sa vie sur la croix pour nous, que le Saint-Esprit a été répandu pour nous, sur nous, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, nous sommes l'habitation de Dieu. Donc il se trouve que je devrais porter la joie en permanence, puisque ben, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Si je suis la maison de l'Éternel quelque part, je suis censé être dans la joie. Voilà. Donc est-ce que vous êtes joyeux ce matin? Oui? Ouais? Un peu, hein? Merci Anto pour les chants que tu as pris ce matin. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais comme j'étais attentif à ce sujet-là ce matin, je m'en suis rendu compte. Et dans les paroles, on a chanté régulièrement que Dieu donnait sa joie ou que je me réjouis dans l'Éternel. Je me réjouis dans l'Éternel, dans le passage que Pierre a lu aussi ce matin en premier. Une fois qu'on a célébré cette création complètement incroyable, c'est je me réjouis en l'Éternel, la réjouissance, la joie. Et donc, vous avez compris le thème de ce matin, vous avez compris de quoi on va parler. On va parler de la joie et on va parler de ce verset, la joie du Seigneur est ma force. Qui c'est qui connaît ce verset-là? La joie du Seigneur est ma force. À peu près, tout le monde connaît, hein. En général, c'est un verset qu'on connaît. On ne sait pas forcément où est-ce qu'il est dans la Bible, mais on sait qu'il vient de la Bible. Et puis, bah voilà, c'est un truc, on sait qu'il existe. On connaît peut-être même un ou deux chants, parce qu'il y en a pas mal qui ont été composés là-dessus, qui disent, hein, la joie du Seigneur est ma force, dont un récemment de Samuel Olivier. Mais au fond, la joie du Seigneur est ma force, ça veut dire quoi? Et c'est la question que j'aimerais nous poser ce matin, et c'est le sujet que j'aimerais qu'on creuse ensemble, parce que c'est un grand sujet, la joie. Mais peut-être c'est intéressant qu'on s'y arrête un tout petit peu. Et donc pour ça, la première chose à faire, et que je vous propose qu'on fasse ensemble, c'est de retrouver où est-ce qu'il est ce verset. Il y en a qui savent où il est? Bravo Thomas, Néhémie 8, 10. Un bon point pour Thomas. T'en es à 10, non? T'as une image bientôt. Oui, c'était un chant, effectivement. Donc Néhémie 8, verset 10, c'est la fin du verset 10 qui dit « Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Et j'aimerais juste nous rendre attentifs sur cette première chose ce matin, c'est qu'il y a une différence par rapport au verset dont on se souvient souvent. On se souvient souvent de « La joie de l'Éternel est ma force. » La joie du Seigneur est ma force. Il se trouve que le verset, lui, il est au pluriel et qu'il est adressé à une communauté et qu'il n'est pas adressé de manière individuelle et qu'on ne retrouve pas ce verset adressé de manière individuelle. Et ça, c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose que je voudrais souligner. Ce n'est pas la joie du Seigneur est ma force, c'est la joie de l'Éternel est votre force, fait votre force. Il y a cette dimension communautaire et puis on reviendra un petit peu plus tard là-dessus pour en reparler, parce que c'est important. Et je trouve que c'est intéressant, j'aimerais juste faire une toute petite parenthèse là-dessus, vous savez que je le dis régulièrement, mais c'est bien que je le redise encore, c'est intéressant de noter ce glissement de l'interprétation qu'il y a, de dire, ça ne me gêne pas aujourd'hui de dire, la joie du Seigneur est ma force, alors que le verset original parle de notre force. Bien sûr que le Seigneur me donne une force qui quelque part, il y a une dimension personnelle, individuelle, mais la joie du Seigneur est votre. Et notre culture, en fait, actuelle, c'est à ça que je voudrais nous rendre attentifs, notre culture actuelle, elle nous pousse à nous approprier les choses. Hein? On va dire, la joie du Seigneur est ma force, ou finalement, la finalité, c'est que la joie du Seigneur, elle est presque moins importante que ben, la résultante, c'est que je suis plein de force, moi. Moi, j'ai une force. C'est ma force, elle est à moi. Et c'est pas ça que dit le verset. C'est la joie de l'Éternel fait votre force. Elle vous est pas... Elle n'est pas votre force, elle fait votre force. Et c'est un peu différent. Et on s'approprie les choses. Et honnêtement, je suis malheureux aujourd'hui, pour parler d'un sujet de joie, hein, je suis malheureux quand je passe sur les réseaux sociaux et que je vois un peu partout, reçois ta guérison, reçois ta prophétie, reçois ta bénédiction. Comme si Dieu pouvait être dépossédé de quoi que ce soit. Comme si au moment où Dieu va bénir, ou comme si au moment où Dieu va guérir, cette guérison devient la mienne. Non. 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 Il n'est pas dépossédé de ça, à aucun moment. Et la gloire continue de lui revenir à tout moment. Et ça, c'est important. Et c'est juste un petit glissement dans l'interprétation auquel je voudrais qu'on soit attentif. Notre culture a tendance à faire qu'on s'approprie les choses. On va parler de mon appel, ma destinée, ma guérison, ma bénédiction, ma faveur. Et en faisant ça, notre nombril devient au centre. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Et quand il est question de la joie de l'Éternel qui fait notre force, notre nombril ne peut pas être au centre. Et vous le verrez, c'est complètement plus large. La Bible, elle nous dit que tout est de lui, par lui et pour lui. Et c'est excellent que ce soit comme ça et que ce ne soit pas autrement. Moi, je suis content, Seigneur, de ne pas être au centre. Et vous allez voir que le contexte, du coup, de ce verset, il est super important. Il est important de regarder qu'est-ce qu'il y a autour de la joie de l'Éternel et votre force. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail le contexte. Le contexte, Israël, il était rentré de l'exil à Babylone il y a un siècle à peu près. L'exil babylonien, Israël était totalement asservi par Babylone. Il était bridé dans ses libertés, il n'avait pas une liberté de culte, pas de liberté religieuse. Et puis Israël a fait aussi n'importe quoi à Babylone, honnêtement. Hein. Ils se sont mariés, ils ont adopté leur Dieu, ils ont fait n'importe quoi. Mais, gloire à Dieu, sa grâce, elle fait que il y a eu une sortie de cet exil-là. Enfin, il y a une sortie, oui. Ils sont rentrés de l'exil où ils étaient sortis pour revenir en Israël. Et là, ils étaient à Jérusalem. Et à Jérusalem, eh ben, ils avaient déjà rebâti le temple de Jérusalem. Ils avaient rebâti ce lieu saint. Le temple était rebâti. Mais est-ce qu'ils étaient libres pour autant? Non, ils étaient toujours sous la domination des Perses. L'empereur perse dominait sur eux. Gloire à Dieu là aussi, ce n'est pas la même domination que les Babyloniens. Ils ont beaucoup plus de liberté. Et dans cette liberté-là, il y a eu notamment cette liberté de reconstruire le temple de Jérusalem. Et vous allez voir une autre liberté un petit peu après. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que toujours dans le contexte, le début du livre de Néhémie, il pointe pas seulement vers la sainteté du temple, mais il déclare que Jérusalem, dans son ensemble, est la ville sainte. Il y a un élargissement de cette dimension de la sainteté, qui n'est plus le temple, et le temple a été rebâti, mais qui est Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans le contexte où on est? Donc ça, c'est en référence à la prophétie de Joël 4, notamment. Il y a d'autres prophètes aussi, mais Joël 4 particulièrement avait prophétisé cet élargissement de la sainteté à l'ensemble de la ville, à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est important de comprendre ce contexte-là. C'est qu'à ce moment-là, donc Israël est rentré, ils sont à Jérusalem, ils ont rebâti le temple, mais pourtant, ils vivent dans quoi? Ils vivent dans une ville en ruine. Ils vivent avec des maisons en ruine. Ils vivent dans la misère, vraiment. Ils vivent dans la misère. Ils vivent avec une muraille qui est complètement ébréchée, ce qui fait que le moindre ennemi, et puis il y en avait quelques-uns autour qui lorgnaient sur Jérusalem, le moindre ennemi qui arrivait, c'en était fini de la protection de cette ville. Alors quid d'une ville sainte avec aussi peu de gloire? Il y avait une humiliation d'Israël à ce moment-là. Et donc Dieu a réveillé Néhémie, a appelé Néhémie, et sous son impulsion à Néhémie, qui a été plaidé en la faveur de la reconstruction des murailles de Jérusalem, les murailles de Jérusalem ont été rebâties. Et alors qu'elles ont été, donc ça c'est toute l'histoire du livre de Néhémie qu'on a jusqu'avant, jusqu'au chapitre 6 à peu près, de mémoire. Et donc là on est au chapitre 8, on est très peu de temps après que les murailles aient été complètement achevées, et c'est le jour de la fête des trompettes. Une fête, une des fêtes, mais une fête particulièrement importante parce qu'elle démarrait tout un cycle de fêtes pour l'Éternel dans le peuple d'Israël et qui était un temps de réjouissance. Ok, donc c'est ça le contexte. On a le peuple, là, qui est rassemblé à ce moment-là, le jour de la fête des trompettes, alors que les murailles de cette ville ont enfin été rebâties, elles ont enfin été consolidées, et le peuple, il est en train de revenir progressivement, il reconstruit ses maisons, etc., ils habitent dans la ville. Donc le jour de la fête des trompettes, tout le peuple est assemblé, vu que c'était un jour de fête, on nous dit comme un seul homme, on parle de l'unité hein, du peuple qui est là, et ils étaient là pour quoi? Ils étaient là pour écouter la lecture de la parole. Ils étaient là pour écouter la lecture du livre de la loi. Ils ont demandé à ce qu'on amène le livre de la loi. Et Esdras, qui était le scribe à l'époque, qui est donc travaillé avec Néhémie. D'ailleurs, Esdras et Néhémie, ces deux livres qui étaient en général un seul rouleau. Voilà, lisez-les ensemble, Esdras et Néhémie en général. C'est très complémentaire. Et donc, ils ont appelé Esdras et ils lui ont dit, voilà, lis-nous dans le livre. Lis-nous dans le livre de la loi. Et pendant 6 heures, Esdras a lu dans le livre de la loi. Et les Lévites, qui étaient là avec Esdras, sont passés partout en expliquant et en expliquant et en expliquant ce qui était en train d'être lu. Je vais vous le lire, hein, c'est Néhémie 8, du verset 8 au verset 10. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdras et les Lévites qui donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel votre Dieu. » C'était le jour de la fête des trompettes. « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. » En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Alors, eh bien, les Lévites, tout ça, ont ajouté « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Voilà où arrive ce verset. Voilà dans quel contexte il arrive, et c'est important d'accrocher ce verset à ce contexte-là. Alors, le peuple, il pleure. Pourquoi le peuple, il pleure? Pourquoi? Eh bien, il pleure en entendant le livre de la loi. Hein, on trouve une clé pour comprendre ça au chapitre 9 de Néhémie. Je vais juste vous le lire, 9:29. « Tu les as avertis pour les faire revenir à ta loi, mais eux, ils ont fait preuve d'arrogance. Ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont péché contre tes règles alors qu'elles font vivre l'homme qui les met en pratique. Ils se sont montrés rebelles et réfractaires. Ils n'ont pas obéi. » Et donc ça, Néhémie 9:29 nous donne un peu une indication des textes fondamentaux qui ont pu être lus au peuple juif à cette époque-là, à ce moment-là de la fête des trompettes, et qu'est-ce qui a pu les faire pleurer. Et c'est probablement notamment Lévitique 18, versets 4 et 5, qui disait « Vous mettrez en pratique mes règles et vous respecterez mes prescriptions. C'est elles que vous suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. » Il y a une promesse. Je suis l'Éternel. Et c'est probablement l'un de ces textes-là fondamentaux qui ont été lus et expliqués aux Hébreux. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le peuple, il réagit comment par rapport à un texte qui dit « Vous mettrez en pratique mes règles, vous respecterez mes prescriptions. » Le peuple, il s'est pris en pleine face le fait qu'il était pêcheur jusqu'aux oreilles, même plus, quoi. Il en avait plein sur les épaules. Que le peuple avait manqué face au commandement de l'Éternel. Que le peuple était indigne. Que le peuple était dans une situation lamentable. Bien plus grande, finalement, que la misère de Jérusalem. Il y avait une misère du peuple, une misère spirituelle. Ils n'avaient pas tiré les leçons de Babylone. Après l'exil de Babylone, ils étaient revenus à l'Éternel. Mais à peine un siècle plus tard, ils étaient repartis. Ils étaient repartis. Et donc le peuple, il pleure par rapport à ça. Il pleure face à son péché. Il pleure en constatant sa faute et sa faiblesse. Et c'est souvent ça que fait la loi. C'est souvent ça que fait la loi. Et ça ne veut pas dire que la loi est mauvaise. Mais c'est souvent ce qu'elle fait. La loi, elle nous renvoie le fait que nous ne pouvons pas être justes par nous-mêmes. Voilà. Que oui, nous sommes faillibles. Que oui, il y a des commandements, il y a des prescriptions, il y a des règles, il y a des ordonnances, il y a une loi de l'Éternel que nous avons du mal à respecter de manière parfaite. Même Paul le dit, je cours vers la perfection, en tendant vers le but, la perfection, Christ, je cours jusqu'à essayer d'arriver là. Mais vis-à-vis de la loi, je suis condamnable. Vis-à-vis de la loi, je tombe. Et je ne sais pas, ça vous arrive jamais, en lisant la parole, de tomber sur des passages où on se dit « Oh Seigneur, le gouffre entre ce que tu me demandes et comment je gère ma vie aujourd'hui. » Ça ne vous arrive jamais d'ouvrir la parole de Dieu et d'être juste à un moment donné contrit dans votre cœur, de dire « Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, où je suis là ?» J'espère que ça vous arrive. J'espère que ça vous arrive en ligne aussi. Pas parce que c'est bon qu'on pleure. Je vous rappelle, le sujet de ce matin, c'est la joie. Mais oui, oui, il y a une loi de l'Éternel. Oui, il y a une justice de l'Éternel. Oui, il y a une façon de marcher sainte. Mais le jour de la fête des trompettes, c'était un jour de fête. Et les fêtes, dans l'histoire d'Israël, elles servaient à rappeler combien Dieu faisait grâce. Elles étaient toujours des moments qui célébraient combien Dieu avait fait grâce et combien Dieu n'était pas en train de juger son peuple au travers de la loi. Ce n'était pas le mécanisme de la loi qui était en place, mais c'était le mécanisme de la grâce de Dieu. Et ce jour de la fête des trompettes, alors que tout le peuple est en train de pleurer par rapport à cette mécanique de la loi, par rapport à cette condamnation vis-à-vis de la loi de Dieu, eh bien ce jour-là, Esdras et les Lévites leur ont rappelé, c'est un jour saint, c'est un jour de fête, c'est un jour où on se souvient que l'Éternel fait grâce, que l'Éternel a fait grâce, et que l'Éternel fait grâce et fera grâce encore. Et ce jour de la fête des trompettes, il est tout à fait en écho à ces trompettes de l'Apocalypse qui annoncent le retour de Christ sur la terre et cette espérance glorieuse qu'il y a. Voilà où on est, là, dans cette fête des trompettes. On est dans un moment de joie, un moment où on célèbre que Dieu fait grâce. Et donc toute l'histoire d'Israël, elle est ponctuée de ces fêtes-là. Et c'est pas, voilà, il y a un premier testament qui est rempli de la loi de Dieu, et puis ensuite, Christ est venu sur terre parce qu'il a été envoyé, et depuis, la grâce de Dieu se manifeste sur la terre pour les chrétiens. Non. Toute l'histoire d'Israël nous montre que Dieu est un Dieu de grâce depuis l'origine, depuis le départ. Il n'a pas exterminé sa création, qui était pourtant dans un péché qui avait désobéi. Non, Dieu a fait le premier sacrifice pour couvrir Adam et Ève avec des peaux de bête. Il a fait grâce dès le départ. Et donc, c'est pour ça, c'est pour le souvenir de la grâce de Dieu et le focus sur cette grâce de Dieu que Esdras et les Lévites, ils ont exhorté le peuple en leur disant « Allez, allez, mangez un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Et en conséquence, deux versets plus loin, au verset 12, on lit « L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres et s'adonner à de grandes réjouissances. » Pourquoi ? Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Ce n'est pas juste une obéissance aveugle. Ce n'est pas juste « Ok, on nous a dit d'aller manger, boire et nous réjouir. » C'est facile ? On sait tous faire. Et c'est important. Oui, ils sont allés manger, boire, ils sont allés dans de grandes réjouissances. La joie était au centre. Ils avaient compris ce qui avait été exposé. Alors, ils avaient compris quoi ? Ben, ils avaient compris que la joie de l'Éternel faisait leur force. Voilà. Et donc, on va s'arrêter un petit peu sur la joie. On va s'arrêter un petit peu sur ce que ça veut dire. Alors, en tout premier, j'aimerais dire que la joie, ce n'est pas une émotion. C'est plus qu'une émotion. La Bible n'en parle pas comme quelque chose qui peut nous animer de temps en temps, comme de la colère ou des choses comme ça. La joie n'est pas une émotion. Le monde la présente des fois comme le panel d'émotions qu'on peut ressentir. Ce n'est pas une émotion. Et vous remarquerez que c'est plus facile de dire « je suis heureux » que de dire « je suis joyeux ». Dès qu'on dit « je suis joyeux », je ne sais pas comment vous le percevez, mais moi, je me ressens comme un contenant en disant ben, « je suis plein de joie ». Quand je dis « je suis joyeux », c'est « je suis plein de joie ». Quand je suis heureux, je parle d'un état où je suis heureux, j'ai du bonheur dans ma vie. Ce n'est pas la même chose. Quand je suis joyeux, c'est que je suis plein de joie. Et la joie, c'est un don de Dieu. Et ce passage, d'ailleurs, il est parfois traduit comme « la joie que donne l'Éternel ». Et non pas « la joie de l'Éternel ». Ce « de », ce n'est pas qu'il est question que l'Éternel est joyeux. Ce n'est pas ça. C'est la joie qui est en l'Éternel et qui est donnée. La joie qui est donnée. La joie que donne l'Éternel. Et la joie, elle fait aussi partie du fruit de l'Esprit qui est décrit dans Galates 5, 22. En deuxième position, l'amour en premier. Et c'est évident, on sait pourquoi. La joie en deux. La joie. La paix en trois. L'ordre. L'ordre est important, les amis. L'ordre est important. C'est pas pour rien. L'amour, la joie, la paix. C'est donné. Ça fait partie de ce fruit qui est donné. Et même dans joie, en hébreu, c'est kara. C-H-A-R-A. Qui est extrêmement proche, étymologiquement parlant, de grâce. Charis. C-H-A-R-I-S. Étymologiquement, joie et grâce sont extrêmement proches. Et qu'est-ce que veut dire grâce ? C'est don. La joie en elle-même, dans le mot même de la joie, c'est par essence quelque chose qui est donné. C'est quelque chose qui est déversé. C'est un don. Donc ne considérons pas la joie comme une émotion au sens que je devrais produire la joie en moi. Et c'est ça que ça nous dit. Quand on dit la joie de l'Éternel est votre force, c'est pas soyez joyeux, produisez la joie. Arrêtez d'être triste, arrêtez de pleurer. Smile, faites un peu de pensée positive, faites un peu de... Voilà. Et produisez la joie. Non, ce n'est pas possible. Et c'est ça que ça nous dit. Et quand on revient à l'étymologie de ces mots, ça nous montre que la joie, on ne peut pas la produire. Donc arrêtons d'essayer. Demandons-la. Elle est donnée. La joie est donnée. Et le monde, il nous dit... Aujourd'hui, recherche le bonheur. Et puis même, aujourd'hui plus particulièrement, recherche ton bonheur. Je fais référence à la parenthèse que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est clairement ça. Recherche ton bonheur, ton épanouissement. Et la Bible, elle nous dit pas ça. La Bible, elle nous dit, c'est Dieu qui donne sans même que nous recherchions. Sans même qu'on recherche, Dieu donne. Et je peux du coup même pas me glorifier d'avoir trouvé la joie, puisque je n'avais pas besoin de la chercher. Elle m'était donnée. Donc quand je suis joyeux, je n'ai aucune gloire à finalement être joyeux. La gloire reste à Dieu. Et ça, c'est toujours hyper important que dans toute notre compréhension, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est, la gloire reste, la finalité reste toujours à Dieu. Et si je pense avoir, moi, trouvé, gagné quelque chose, la gloire pour Dieu, c'est lui qui donne. Et donc, il est à l'origine du don. Et il est le seul à en être glorifié. J'ai entendu il n'y a pas longtemps une conférence TED avec une écrivaine qui s'appelle Emily Esfahani Smith. Je ne la connaissais pas, mais qui a dit quelque chose qui m'a fortement intéressé, surtout dans le contexte du message que je préparais, qui disait « Notre culture est obsédée par le bonheur. » Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Notre culture, elle est obsédée par le bonheur, et je dirais le bonheur personnel. Mais, c'est ce qu'elle dit, j'en suis venu à voir, au travers de ces études, hein, j'en suis venu à voir que chercher un sens est le chemin le plus épanouissant. Et je trouve extrêmement intéressant, et extrêmement profond, et extrêmement biblique, ce qu'elle vient de déclarer là. Le monde est obsédé par le bonheur, mais j'en suis venu à voir que chercher un sens est le chemin le plus épanouissant. Et alléluia, chercher un sens, c'est facile. Là aussi, je ne peux pas me glorifier de l'avoir trouvé. Il nous a été donné. Jésus a dit, c'est moi, dans Jean 14, 6, qui suis le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Voilà. Le sens unique. Il a été donné là. Jésus l'a déjà donné. Et David le disait déjà dans ses psaumes, psaume 16, 11. Tu me fais connaître le sentier de la vie. C'est pas j'ai trouvé le sentier de la vie. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Le sens nous est donné, lui aussi, pour que Dieu garde toute la gloire. Et donc la joie, elle est bien plus qu'une émotion. Bien plus qu'une émotion. La Bible nous dit même qu'elle est un remède pour le corps. Dans Proverbes 17, 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Et ça, les amis, même les médecins sont d'accord avec ça. Même les médecins. C'est prouvé aujourd'hui que la psyché, notre état de cœur, en fait, l'espérance ou la non-espérance influe sur notre capacité à être soigné, notre capacité à répondre à un traitement, sur notre santé générale dans la vie. Donc soyons joyeux, soyons pleins de joie. Demandons cette joie, attachons-nous à cette joie. Et comme on l'a lu juste avant, ceux qui respectent les prescriptions de l'Éternel, qui reconnaissent qu'elles sont justes, ben celui-là vivra. Il y a une promesse de vie derrière. Donc la joie, elle est plus qu'une émotion. Et on doit, vu qu'on a dit que c'était un remède pour le corps, que c'était tellement important pour nous, c'est pour ça qu'on trouve dans la parole des exhortations, comme dans 1 Thessaloniciens 5,16, « Soyez toujours joyeux ». Et là, encore une fois, cette exhortation, elle n'est pas « produisez la joie ». Soyez joyeux par vous-même. Elle est « recevez la joie ». C'est un état « soyez toujours joyeux » parce que l'Éternel donne. Philippiens 4,4, ce verset qui passe partout, dont on dit ça souvent. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Voilà pourquoi on trouve ces exhortations. Pourquoi ? Parce que quand on recherche la joie de l'Éternel, ça fait notre force. Il y a une promesse de vie derrière, jusque dans nos corps. Alors quand je dis ça, cette joie, elle ne nie pas les moments de tristesse. Elle ne nie pas qu'il y a des moments d'accablement, qu'il y a des moments de doute, qu'il y a des moments où on se sent vide dans notre réservoir de joie. Et ce n'est pas un problème. Ecclésiaste 3, verset 4 nous dit « Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. » Et c'est totalement juste. Et j'aimerais pas ce matin que vous mécompreniez ce que je suis en train de dire et qu'on rentre dans un... où on nie toutes les émotions négatives qu'on peut ressentir, toutes les situations difficiles qu'on peut traverser. Oui, il y a un temps pour pleurer. Et Ecclésiaste commence par là. Je préfère d'ailleurs qu'il le dise dans ce sens-là. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour rire. Et c'est là une espérance éternelle que nous devons proclamer dans nos vies. Il y a toujours, derrière le temps pour pleurer, un temps pour rire. Il y a toujours, derrière le temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour célébrer. Amen ? Amen. C'est une espérance que nous devons proclamer. Proclamer. Et le fondement de la joie de l'Éternel, ça c'est important, c'est l'espérance qu'il nous donne en toute saison. Sa joie, elle ne peut pas être déconnectée de l'espérance. Et on trouve ça dans Romains 15 au verset 13. Que le Dieu, il y a beaucoup de versets ce matin, j'espère que vous les retenez tous. Ceux qui prennent des notes, c'est bien. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. Ah, on retrouve la joie et la paix. Dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance à votre tour par la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous le relire. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et la joie de l'Éternel, ce n'est pas la méthode « je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît ». Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. Non, la joie de l'Éternel, elle est la conséquence du choix de placer notre espérance en Dieu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. La joie de l'Éternel est la conséquence de notre choix, notre décision, notre foi mise en action, de placer notre espérance en Dieu. Ce Dieu qui est dit « Je suis le Dieu de l'espérance » avec un grand E. Cette espérance qu'on ne trouve pas dans le monde. On ne trouve qu'en Dieu. Alors, oui, il y a des fois des tempêtes dans nos vies. Peut-être qu'on est dans la tempête aujourd'hui. Eh bien, on peut se souvenir que Dieu est plus grand et qu'il calme les eaux et qu'il calme les vents. Il l'a fait. Il l'a fait. Et dans nos tempêtes, Dieu est celui qui calme derrière. Je suis peut-être dans un désert. Je me sens peut-être desséché aujourd'hui. Ben, souvenons-nous que Dieu est plus grand que ça. Qu'il est celui qui a fait jaillir de l'eau du rocher le plus dur. Souvenons-nous de ces choses-là pour espérer. Pour espérer en l'Éternel et recevoir sa joie et recevoir sa paix. Et on doit apprendre à nous réjouir de ces choses-là. On doit apprendre à jouir aussi de ce qu'on a. Comme je le faisais remarquer tout à l'heure, comprendre que l'invitation, elle est communautaire, qu'elle n'est pas juste individuelle. Et c'était intéressant dans le contexte qu'on a lu de voir que le peuple, il a été exhorté à se réjouir et à partager. Hein? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça fait partie du processus de joie. Et c'est pour cette raison-là que je disais tout à l'heure que de dire la joie du Seigneur est ma force, on coupe, on est en train de couper une richesse incroyable de cette vérité biblique. La joie du Seigneur est notre force, elle fait notre force. Pourquoi ? Parce que cette joie, on la partage. Ceux qui n'avaient rien, ceux qui n'avaient pas préparé pour pouvoir se réjouir, l'ordonnance, le commandement qui avait été donné, c'est envoyez des parts de ce que vous préparez, préparez un bon repas, ouvrez de super bouteilles de vin, de liqueurs douces, régalez-vous et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien préparé. Envoyez des parts à ceux qui n'ont peut-être même rien, ceux qui étaient dans la misère. Je disais qu'il y avait de la misère là-bas. Peut-être il y en a, ils n'avaient pas de quoi préparer un super repas. Ils n'avaient peut-être pas de quoi faire ce qu'on appelle souvent à la maison, nous, un repas de fête. On aime bien faire des repas de fête, des repas où on va se réjouir ensemble, en famille, de choses, d'événements de la vie, de même juste le fait d'être ensemble. Un repas de fête. Peut-être qu'il y en a qui n'avaient pas ça. Mais la dimension communautaire, elle fait que nul n'est épargné. Nul n'est oublié dans cette joie. Nul n'est laissé de côté. Forcément, on envoie des parts à ceux qui n'ont pas pour qu'eux aussi se réjouissent et qu'aucun ne puisse dire « je n'ai pas pu me réjouir ». Je n'ai pas pu. Ce n'est pas possible. La main de l'Éternel, elle n'est jamais trop courte. Elle n'est jamais trop courte. Et nous sommes l'instrument de cette bénédiction. Nous sommes l'instrument de ce partage. Nous sommes l'instrument de cette richesse les uns des autres. Alors manifestons encore, et on le fait. Et merci d'être cette communauté-là, d'avoir cette marque de générosité. Mais continuons. Continuons à pratiquer la générosité entre nous. Continuons à pratiquer cette mesure abondante, en fait, du Père, les uns avec les autres. C'est super important. Et réjouissons-nous, célébrons la grâce de Dieu. Et sur la joie, j'aimerais finir là-dessus en disant que l'espérance du salut, c'est ça notre premier sujet de joie. On est appelé à se réjouir dans nos vies. On est appelé à jouir de ce que le Seigneur, des bénédictions que nous avons. Mais notre premier sujet de réjouissance, c'est l'espérance du salut. Ésaïe 61, 10 dit ça, « Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil au jeune marié qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. » Il y a une jouissance du salut, une réjouissance du salut qui est posée sur nous, qui est donnée sur nous comme un manteau. Dans Luc 10, versets 17 à 20, il y a les 70 disciples qui étaient partis, envoyés avec la puissance de l'Esprit pour chasser des démons, pour guérir des malades. Et ils reviennent, on nous dit, donc dans Luc 10, 17, les 70 revinrent tout joyeux. Ils étaient remplis de joie. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, ils participent à cette joie, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. » C'était une victoire spirituelle incroyable. Le début de l'élargissement du ministère de Christ au travers de chacun d'entre nous. « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Cependant, c'est cependant qui sont importants. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Oui, on peut s'en réjouir quelque part. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Notre joie ultime, elle ne s'accroche pas à la bénédiction. Notre joie ne s'accroche pas à la bénédiction. Notre joie ne s'accroche pas aux fruits que nous voyons dans nos vies. Notre joie ne s'accroche pas à la puissance qu'on démontre. Notre joie ne s'appuie pas sur les miracles. Notre joie ne s'appuie pas sur la taille de notre communauté, sur la beauté de nos chants, sur la longueur de nos prières, sur rien de tout ça. Notre joie, elle s'accroche sur notre Créateur, celui qui donne la joie. C'est lui, rien d'autre. Lui. C'est lui le sujet de notre joie. Alors réjouissons-nous de toute bénédiction qui nous est accordée dans cette vie. Oui, réjouissons-nous de tout ça. Mais souvenons-nous que notre premier sujet de réjouissance, c'est le salut qui est offert au travers de Jésus-Christ. C'est son sang versé à la croix qui nous a ouvert un accès libre à la présence du Père céleste afin de l'adorer encore et encore et d'y trouver là un plaisir éternel, afin de l'adorer et d'y trouver un plaisir. Et donc j'en arrive à la conclusion. Et pour finir, j'aimerais m'arrêter sur la deuxième partie du verset. Vous allez voir, ça ne va pas être long. Cette dimension de la force. Okay. On a vu que la joie, on commence à toucher peut-être davantage la profondeur de ce que c'est que cette joie et de quoi il est question. Et on nous dit la joie de l'Éternel fait votre force. C'est quoi cette force qui caractérise la joie de l'Éternel? Eh bien, le mot traduit par force dans ce texte, il est aussi traduit ailleurs dans la parole, voire même dans d'autres versions de ce propre verset-là, par refuge, forteresse, protection. Et donc on voit qu'il n'est pas question d'une force offensive, il est question d'une force défensive. Et il n'est pas question que je sois une sorte de fou zélé, plein de joie, qui va partir à la conquête de la terre entière parce que cette joie-là, elle me donne une force pour détruire les œuvres de l'ennemi. Ce n'est pas cette force dont il est question. Il est question de la protection qu'offre l'Éternel, l'espérance qu'offre l'Éternel, cette paix qu'offre l'Éternel. C'est ça, la force qui est produite par la joie, le fait que mon cœur est joyeux et en paix, serein, parce que l'Éternel protège. Il me met à l'écart, il me met à l'abri, il me place dans sa main et nul ne peut me ravir de cette main. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, qu'elles soient sur terre ou dans le ciel. Rien, rien, rien. Quel sujet de joie que d'avoir une assurance complète en Dieu. Et donc c'est une force défensive, une protection divine incroyable. Et donc, après avoir dit tout ça, on pourrait peut-être reformuler ce verset. Et je vous propose de le reformuler comme ça pour qu'on puisse s'en souvenir de cette manière-là. On pourrait dire, la joie que donne l'Éternel est pour nous une forteresse. La joie que donne l'Éternel est pour nous une forteresse. Ok ? C'est de cette manière-là qu'il faut qu'on comprenne ce verset. Et c'est particulièrement intéressant. On a fait un peu d'herméneutique tout à l'heure, hein, on a regardé le contexte dans lequel était donné ce verset. Mais justement, c'est intéressant de re-regarder le contexte. Souvenez-vous, ils ont dit ça aux Hébreux, alors que les murailles de Jérusalem venaient d'être reconstruites. Les murailles physiques de la ville sainte venaient d'être reconstruites. Et dans ce contexte-là, alors qu'on célèbre la grâce que Dieu fait de dire « Oui, vous n'avez pas respecté les prescriptions, mais souvenez-vous premièrement que l'Éternel fait grâce et que ça, ce soit un sujet de réjouissance, un sujet de joie pour vous. Et souvenez-vous que cette assurance de la grâce de Dieu, cette assurance que Dieu veille et qu'il est là, ça, c'est une forteresse encore plus grande que les murailles qui ont été posées autour de cette ville. Et c'est intéressant de voir ça, de dire, ok, le Seigneur a permis, il a conduit pour que dans Jérusalem, les murailles de protection de la ville soient rebâties en totalité, que les portes soient restaurées, que la ville soit à l'abri et que le peuple trouve une protection à l'intérieur de cette ville sainte. Mais au-delà de ça, Dieu leur rappelle, ce n'est pas les murailles de cette ville qui vous protègent. Il continue de leur dire, c'est moi la finalité, à moi la gloire, c'est moi qui vous protège. C'est moi qui vous donne cet abri, ce refuge, cette espérance. Il leur rappelle que sa grâce, elle surabonde, qu'au-delà des murailles physiques, Dieu pourvoit une forteresse plus grande encore. Et c'est valable pour nos vies. Quelle que soit la sécurité que nous allons pouvoir bâtir, quel que soit l'endroit dans lequel nous nous trouvons, le plus serein que ça puisse être, souvenons-nous toujours que Dieu pourvoira les seules murailles, celles de la joie, celles de la paix, qui seront incorruptibles, indestructibles. Il est le seul. Tout le reste passera. Tout le reste passera, si ce n'est ça. Et donc, quand on place notre foi dans le Dieu de l'espérance, quand nous espérons en lui, il nous remplit de sa joie, il nous remplit de sa paix. Il place autour de nos cœurs, autour de nos vies, des murailles que nul ne peut faire tomber. Et donc, je vais finir là-dessus. Voilà ce que nous dit ce verset. C'est la joie de l'Éternel qui sera votre force. Ce verset, il nous dit, si je dois l'appliquer aujourd'hui, reconnais que l'Éternel est Dieu. Reconnais qu'il fait grâce. espère en lui. Reçois alors sa joie et sa paix afin que ton cœur soit en sécurité entre ses mains. Et rends grâce pour cela en reconnaissant que l'Éternel est Dieu, qu'il fait grâce. Espère en lui. Reçois alors sa joie et sa paix afin que ton cœur soit en sécurité entre ses mains. Et rends grâce pour cela en reconnaissant que l'Éternel est Dieu, qu'il fait grâce. Espère en lui. Reçois alors sa joie et sa paix, afin que ton cœur soit en sécurité entre ses mains, et rends grâce pour cela en reconnaissant que l'Éternel est Dieu. Quel programme ? Quel programme ? Le programme de toute notre vie. Le programme de toute notre vie. Je reconnais, Seigneur, que tu es Dieu. Je rends grâce pour cela, parce que tu es Dieu. Et je rends grâce pour cela, parce que tu es Dieu. Et je rends grâce pour cela, parce que tu es Dieu. Et c'est dans ce processus-là que la joie que donne l'Éternel, quand on tourne nos yeux vers lui et que sa joie nous est donnée, c'est dans ce processus-là que les murailles sont élevées dans nos vies et que nous pouvons marcher sur les eaux et que nous pouvons marcher sur les serpents et marcher sur les scorpions et avancer dans nos vies, peu importe que nous voyons ou pas les fruits, avec l'assurance pleine et entière de l'espérance qui s'attache au salut qui nous a été donné en Jésus-Christ. Voilà la profondeur de la joie de l'Éternel. C'est quelque chose d'incroyable et qu'il faut explorer pour en saisir toute la profondeur, toute la puissance, toute l'étendue. On l'a juste touché ce matin, mais je vous invite à continuer d'explorer combien la joie n'est pas juste un sentiment, juste une émotion, mais quelque chose d'incroyablement fondamental dans nos vies. Dieu a prévu que ce soit génial et ça peut l'être. Alors allons-y. Amen. Amen. J'aimerais juste prier pour finir par rapport à ces choses-là. Seigneur, mais merci. Merci pour ta parole qui a été écrite il y a si longtemps, Seigneur, dans un contexte qui est tellement différent du nôtre et qui est pourtant tellement vrai pour nous encore aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ces vérités dont on s'est rappelé ce matin, Seigneur. Merci pour la profondeur, la largeur, Seigneur, de cette joie et ce qu'elle produit dans nos vies, Seigneur. Tu as décidé que ce serait comme ça. Je te prie vraiment de continuer à nous révéler la taille de cette joie, à nous révéler les contours de cette joie parfaite, Seigneur, à continuer de déverser sur chacun d'entre nous, sur chacun des foyers de cette communauté, Seigneur, une joie pleine et parfaite qui s'attache à l'espérance dans le fait que tu pourvois pour chaque chose, Seigneur, que tu es le Dieu souverain qui tient nos vies entre tes mains et que nul ne peut les ravir, Seigneur. Donc je prie pour ta joie déversée encore et encore. Seigneur, je prie pour ta joie manifestée et proclamée dans notre assemblée encore plus, Seigneur. Encore plus, Seigneur. Je veux des danses, Seigneur. Je veux des cris de joie au milieu de nous, Seigneur, qui montrent que nous ne pouvons pas contenir cette joie que tu as mise dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons aller manger et boire avec de grandes réjouissances, Seigneur. Nous voulons manifester, Seigneur, cette profondeur puissante de l'espérance en ton nom, Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis en ligne aussi. Pierre, je te laisse.